Bon, on m'entend bien. Bien aimé, si vous voulez, on va se tenir encore debout quelques instants. Avant de prendre le temps de la parole, je sais que généralement, quand on prend le temps de la prière, on le fait à la fin. Naturellement, pour ceux qui sont en présentiel ici, on a toujours le 30 minutes de prière avant la parole, c'est-à-dire de 6h30 à 19h. Et suivant ça, on a les cantiques. Et s'il reste du temps, généralement, on prend de la prière à la fin. Mais bon, il y a un de nos bien-aimés qui a été durement affecté aujourd'hui. J'ai reçu l'appel un peu plus tard que le milieu de la nuit. Le frère Matteo, qui s'assemble avec les jeunes, a besoin de notre support dans la prière. Son papa est décédé cette nuit. Et je crois que le moindre qu'on peut faire est de prier pour le bien-aimé, pour sa famille. Et par la même occasion, j'ai eu aussi des nouvelles de des gens que je suis à l'extérieur du pays. C'est des chrétiens de longue date. Le papa qui était pasteur est aussi décédé. Avant de prier, de prendre le temps de la parole, je crois que la parole de Dieu nous ordonne de prier les uns pour les autres. Et à plus forte raison de pleurer avec ceux qui pleurent, le moindre que l'on puisse faire, c'est d'élever notre voix. Les gens qui sont à l'extérieur du pays, un en Afrique, l'autre en Europe, qui ont perdu leur papa, qui était pasteur, vous ne les connaissez pas. Comme tel. Mais c'est des frères, c'est des gens qui connaissent le Seigneur, c'est des gens qui confessent Jésus. Et nous devons de prier les uns pour les autres. Et à bien plus forte raison pour le frère Matteo, jeune converti, j'ai pris mes informations d'à peu près depuis un an, commence à marcher avec le Seigneur et ceci s'est produit. Naturellement, tout le monde. On sait tous qu'un jour, nous allons partir avec le Seigneur, mais d'une façon inattendue, comme lui, ça peut donner un coup à la foi de quelqu'un. Donc, on va soutenir notre frère dans la foi par la prière. Élevons la voix ensemble, si vous voulez bien, pour ces deux familles-là qui sont éprouvées. Seigneur, toi qui connaissais ce temps, ce moment, Seigneur, pénible, difficile, Seigneur, pour notre jeune frère Matteo, pour sa famille, Seigneur, ceux, Seigneur, que le papa a laissés en quittant ce monde, qu'il a laissé, Seigneur, bien malgré lui, mais toi qui connais les temps et les moments pour tout, Seigneur, tu connaissais ce moment-ci, ce malheureux moment-ci pour notre frère Matteo n'a pas échappé à toi. Mais nous faisons appel à toi, Seigneur, car tu es le Dieu de toute consolation, Seigneur. C'est toi qui nous as promis d'envoyer le consolateur. C'est toi qui nous as dit que tu nous enverrais, Seigneur, ce consolateur pour nous aider dans notre marche et aussi dans nos différentes afflictions à porter les fardeaux lourds. Donc, j'élève ma voix. J'élève ma voix pour mon frère Matteo, Seigneur, te demandant miséricorde pour mon frère. Te demandant, Seigneur, peut-être bien qu'il ne comprend pas, qu'il ne capte pas ce qui s'est produit. Il est encore sous le choc, Seigneur. Je te demande là où il est, avec sa maman, avec sa sœur. Je te demande de déposer ta bonne main sur cette famille, de consoler le cœur de cette famille. Seigneur, dans ces temps-là d'affliction, dans ces temps-là difficiles, Seigneur, plusieurs abandonnent la juste route, plusieurs s'éloignent, ne comprenant pas. Qu'il n'en soit pas ainsi de notre frère Matteo, Seigneur, qu'il puisse s'accoler à toi, se rapprocher de toi malgré sa peine, malgré, Seigneur, qu'il ne comprend pas ce qui arrive, Seigneur, totalement, Eh bien, Seigneur, dans ce temps difficile pour notre frère, apporte-lui ta consolation, Seigneur, et qu'il puisse s'attacher à toi plus fortement que jamais dans cette tempête, Seigneur, qu'il doit traverser, ô Dieu. Seigneur, je prie pour la même occasion pour mon frère Esdras, mon frère Roland, Seigneur, qui ont aussi perdu leur père, un bien-aimé, Seigneur, qui te servait dans le ministère. Seigneur, la peine aussi que ces gens-là ressentent du départ de leur papa, je te demande, Seigneur, de mettre ta bonne main sur eux. Ils vont voyager pour aller là-bas, Seigneur, au Burkina. Que ta bonne main repose sur eux dans toutes les étapes du voyage. Ouvre le chemin devant eux, Seigneur, et apporte-leur aussi le réconfort dont ils ont besoin, Seigneur. Seigneur, nous faisons cette simple prière, sachant, Seigneur, que tu fais au-delà de nos prières, que tu donnes au-delà des mots que nous prononçons, Seigneur. Seigneur, apporte toute ton assistance, Seigneur, à ces deux bien-aimés, ô Dieu. J'ai prié dans le nom de Jésus. Apporte, Seigneur, cette consolation dont ils ont tant besoin, ô Dieu. Nous nous remettons aussi, Seigneur, dans tes mains pour le moment de la parole que nous allons prendre, Seigneur. Seigneur, que ta parole, Seigneur, puisse être donnée avec assurance, Seigneur, par moi qui dois la porter et être reçue avec conviction par ceux, Seigneur, qui l'entendent. Que ce soit ici, proche, que ce soit ceux qui nous écoutent via Internet, Seigneur, les différentes plateformes de l'Église. Seigneur, donne à ton peuple, Seigneur, un esprit bien disposé. Et donne-moi, Seigneur, en tant que serviteur, aussi un esprit bien disposé, Seigneur, pour que ta parole, Seigneur, qui va voyager entre moi et eux, ne reparte pas vers toi sans avoir produit tout son effet, Seigneur. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez prendre place. Nous sommes toujours dans le livre de Jonas. Nous sommes toujours en train de regarder l'intervention de Dieu via le prophète et via la ville de Ninive, la grande ville. Nous étions rendus à regarder dans le verset 7 du chapitre 3 du livre de Jonas. On avait commencé la semaine dernière, et j'avais même fait un bout l'autre semaine avant, on regardait concernant la repentance. On avait regardé certains éléments concernant la repentance et on va conclure cette partie-là, Dieu voulant, ce soir. On va regarder le verset 7, le verset 8, le verset 9 qui dit « Le roi, en fait, de la ville, il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs, les brebis, ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent de tous leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère en sorte que nous ne périssions point. » Et on avait vu un peu ce qui avait mené à cela. On avait regardé un peu la réaction lorsque le prophète marche dans la ville, lorsqu'il commence à dire « encore » et il va donner un certain nombre de jours, il va dire « plus de Ninive, Dieu va rentrer en jugement avec, Ninive va être détruite avec ses habitants et il va donner un message difficile, mais le message, même s'il est difficile, est assez bien reçu des Ninivites et ça parvient jusqu'au roi. Le roi entend parler de ce prophète-là qui se promène dans la ville, qui a 3 jours de marche, et qui va donner la parole, qui va donner le message. Et le roi et ses grands vont prendre la chose à cœur, comme on vient de lire dans les versets 7, 8 et 9. Mais j'aimerais attirer, pour qu'on puisse conclure cette partie-là, où il va parler de la repentance au verset 8 en disant que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent, qu'ils fassent volte-face et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Pardonnez-moi. Et c'est ici où je vais cibler un peu pour ce soir, où on va conclure concernant la repentance, et suivant ça, on va voir dans l'autre semaine la réaction de Jonas suite à la repentance. Est-ce que vous croyez au pardon complet de Dieu? Que Dieu nous pardonne, que le Seigneur, à cause de son sang versé, peut couvrir toutes les fautes, peut nous pardonner tous nos péchés, toutes nos iniquités. Beaucoup de personnes disent « ça serait trop facile si c'est ça ». Et c'est pour ça que quelquefois, quand on évangélise, et je fais un léger addenda ici, quelquefois quand on évangélise, des gens qui sont habitués de faire ce que j'appelle des bonnes œuvres ou de travailler des bonnes œuvres pour leur salut, quand tu leur annonces un salut gratuit qui ne coûte rien, qui t'est donné par pure bonté de Dieu, par pure miséricorde, par pure grâce, souvent des gens vont réagir, vont dire « Eh bien, tu te moques de nous, c'est trop facile, il faudrait avoir quelques chapelets à dire, quelques contritions et quelques marques dans le dos de contrition. » Et on dit « Non, non, le salut est gratuit. » Vous avez des gens à un bout du spectre qui disent « Mais voyons donc, beaucoup trop facile un salut comme ça, tout le monde serait sauvé. » Et vous avez d'autres personnes à l'autre bout du spectre qui, eux, se disent « Hey, c'est facile. » Profitons-en, abusons-en, soyons clairs. Il y a des gens aujourd'hui dans les églises qui vivent sous la grâce, et passez-moi l'expression, qui prennent la grâce de Dieu comme tout simplement une autoroute 4 voies qu'on fait absolument tout ce qu'on veut. Et le salut est plus étroit que ça. Vous savez, on peut discuter de bien des doctrines, on peut regarder bien des choses. Il y a des doctrines qui sont de base, que j'appelle. Il y a d'autres qui sont de façon moins prenante, qui peuvent changer le cours de ta vie. Celle du salut peut vraiment changer le cours de ta vie. Si une personne prend le salut avec des bonnes œuvres et compte sur ses bonnes œuvres pour être sauvé, il y a un problème. Mais si par contre le chrétien qui connaît la grâce de Dieu prend cette grâce-là pour ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire faisons absolument tout ce qu'on veut, à la fin on a juste à dire « Seigneur, pardonne-moi ». Ces gens-là vont avoir plus une attitude de se moquer de Dieu un peu, de cette façon-là. Abuser de la grâce, vouloir en abuser, ça prouve qu'on n'a pas compris ce qu'est la grâce de Dieu. Si on dit, eh bien, c'est un autoroute à 4 voies, allons-y. J'étais avec un groupe restreint de personnes dimanche après l'assemblée et on parlait de choses que je calcule peut-être plus secondaires que du salut pur et dur. Que j'appelle. Et même s'ils sont partis à peu près vers 11h le soir, j'ai regardé 11h moins 5 exactement, du soir j'ai passé ma journée, la veillée où on a discuté, enrichissant, je l'espère pour eux comme pour moi, mais après ça je dis, Seigneur, je veux prier, je veux remettre ces gens-là, Seigneur, je les remets à ta grâce. Quand on parle, autant pour des gens qui nous visitent, autant pour une période difficile comme notre frère Mathéo, autant la grâce de Dieu n'a pas de limite, soyons clairs. Mais la grâce de Dieu n'est pas n'importe quoi non plus. Cette grâce-là devrait nous porter à quelque chose. J'avais une discussion avec un bien-aimé d'une autre assemblée dernièrement à cause de ce qui se passait dans son assemblée à lui. Et à un moment donné, il me disait « Ouais, mais un coup que tu avertis les gens, tu les laisses faire, puis Dieu s'arrangera avec eux autres. » Je dis « Tu peux créer du désordre dans ton assemblée. » Ton assemblée pourrait devenir désordonnée. La grâce doit aussi être prêchée à la mesure de ce qu'elle est. Tournez dans Matthieu, chapitre 3, verset 8, où des gens, et là ici je vous mets en contexte, où des gens vont aller au baptême de Jean-Baptiste, et ces personnes-là vont arriver, et Jean-Baptiste voit ces gens-là et il sait le mode de vie que ces gens-là font. Et regardez bien ce qu'il leur dit. Produisez donc du fruit digne de la repentance. La repentance porte un fruit. Hier, j'étais ici, je donnais un enseignement pour les deux personnes qui vont se faire baptiser. Et je le donnais dans 1 Pierre chapitre 3. Je dis, votre engagement que vous allez faire, dimanche, l'engagement que vous allez faire dimanche qui vient, dans les eaux du baptême, je dis, c'est un engagement au niveau de la conscience. Ce n'est pas l'engagement que vous faites au niveau d'une église, au niveau d'un pasteur. C'est entre vous et Dieu. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu qui maintenant vous sauve. C'est ce que le verset dans Pierre dit directement. Donc, Jean-Baptiste dit « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » C'est-à-dire, la repentance devrait devenir, à un moment donné dans ta vie, perceptible. Vous savez, je ne connais pas beaucoup les arbres. Et il y a un arbre planté juste sur le trottoir en face de chez nous. Et quand l'été arrive, il étend ses branches, et moi j'habite le deuxième et le troisième étage, et il étend ses branches jusqu'à mon balcon. Et je trouvais que les feuilles de cet arbre-là étaient bizarres. C'est des grandes feuilles courbées, assez épaisses. Et à un moment donné, ma femme, qui est curieuse, a pris sur le balcon, puis elle a secoué un peu. Mais il y avait quelque chose dans la petite feuille qu'il y avait là. Donc, elle a enlevé 2-3. Elle a été vérifiée. J'ai vérifié aussi cet arbre-là. Moi, je ne le savais pas. Il est là depuis plusieurs années. Là. Mais quand on l'a ouvert, on a pris les petits grains qu'il y avait dedans. Et c'est du caroube. Un substitut de chocolat, si vous voulez. C'est du caroube. On l'a pilé. Moi et ma femme, on l'a pilé, on l'a écrasé, on s'est assis, on a goûté à ça. Après ça, ma femme m'a dit, achète-moi un sac de caroube pour voir si ça goûte la même chose que notre arbre. Et c'est bien cet arbre-là qui est devant en chez moi. Et j'ai reconnu l'arbre comment? On a ouvert, on a regardé ce qu'il y avait et on a su ce que c'était. Il y a un fruit à un arbre. Si je vous parle d'un pommier, au Québec, on connaît ça. Est-ce que vous avez déjà été aux pommes? Moi, j'ai déjà été. Quand mes enfants étaient jeunes, en automne, je prenais toujours un samedi où je les amenais aux pommes. On achetait différents produits de la pomme et on faisait l'auto-cueillette. OK? Soyons clairs. Je sais que la première fois que j'ai vu cela, je viens d'un milieu plutôt modeste où on ne sortait pas de la ville de Montréal, mon père n'avait pas de voiture ni rien à ce niveau-là. Et naturellement, j'ai été aux pommes la première fois, j'étais un adulte marié avec des enfants. Et l'image que j'avais d'un pommier, c'est l'image que j'avais vue dans les films. Un grand, grand arbre, ça prend une grande, grande échelle quasiment qui touche au ciel pour aller. Mais quand je me suis rendu là, les pommiers que moi j'ai vus, ils sont un peu plus grands que moi, là, mais je suis pas un géant, soit dit en passant. Et t'as pas besoin d'échelle, là. Tu cueilles à la main. Maintenant, je sais reconnaître un pommier. Je sais reconnaître un arbre qui porte du caroube. Pourquoi? Parce que j'ai vu. Quand Jean-Baptiste va dire ici, produisez donc, c'est des gens qui se rendent à son baptême de façon tout simplement religieuse. Il va dire, non, non, vous n'avez pas compris. Et là, je vous paraphrase Jean-Baptiste. Il va dire, non, non, vous n'avez pas compris ce qu'est vraiment la repentance. Et c'est pour ça qu'il va les reprendre. Il va dire, produisez le fruit de ce que vous dites que vous êtes en train de faire, vous repentir. Et c'est ce que les Ninivites ont fait. Les gens de Ninive se sont repentis. Le roi sur son trône avec ses grands se sont repentis et ils ont posé un geste à l'époque conséquent à la repentance qu'ils exerçaient à ce moment-là. Et le texte nous dit que les hommes, les bêtes soient couverts de sacs et qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent. Et je vous reprends la partie B du verset 8. Et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie. Qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Donc, il dit, produisez, prenez un sac, la cendre, humiliez-vous, jeûnez, mais faites aussi ça, ça va avec. La repentance doit avoir un fruit. Et Jean-Baptiste, et vous irez lire dans le chapitre 3, peut-être un peu en amont et en aval, vous irez lire en amont et en aval du verset 8, et vous allez voir que les gens se présentent, et ils voient certaines personnes se présenter, puis ils connaissent leur style de vie. Ils connaissent la façon dont... Puis il va dire, vous autres, vous là, et c'est assez direct. Et quelquefois, nous, les pasteurs dans l'église, t'approches une personne, tu dis, écoute, mon frère, là, et t'essayes tout simplement de prendre, ouais, mais je vais m'en aller d'abord. La repentance devrait être quelque chose de profond en nous. D'ailleurs, l'apôtre Jacques va écrire, montre-moi ta foi sans tes œuvres, les œuvres de la repentance, et moi, je vais te montrer ma foi par mes œuvres de repentance, si vous voulez. La foi doit porter quelque chose. La foi doit faire émerger un fruit. La repentance que l'on a, accouplée à notre foi, devrait faire un changement de vie. Et c'est le cas de tout réveil spirituel, que ce soit dans un homme, dans un groupe, dans une ville, ou dans un pays. Vous savez, l'histoire de Jonas à Ninive, les archéologues ont longtemps douté d'une telle ville avec une telle dimension et qu'une conversion de ce mode-là ait pu arriver. Jusqu'à ce qu'un archéologue découvre le pourtour de cette ville-là. La Bible, encore une fois, avait raison. Je regardais cet après-midi, en même temps que j'étudiais et que je faisais autre chose, je regardais à un moment donné le fameux télescope James Webb qu'ils ont envoyé. Il a dit quelque chose, le scientifique qui parlait, qui m'a vraiment surpris. Il dit, on remet en doute, je ne comprends pas que ça n'ait pas passé dans le journal plus que ça, mais... Je l'ai laissé sur mon ordinateur. On remet en doute le Big Bang de Darwin parce que ce n'est pas ce que l'espace profond est en train de nous montrer. Vous et moi, on aurait dû le savoir. On devrait faire confiance au Seigneur. Ça ne devrait pas être une nouvelle pour nous. C'est une nouvelle pour eux, mais pas pour nous. Je leur disais aux gens qui vont se faire baptiser dimanche, j'ai pris la Bible, je dis, est-ce que ça pour toi, c'est la vérité ou c'est une des vérités dans le monde? Ou, oui, Il y a des vérités là-dedans. Je lui ai dit, propre au baptême, c'est reconnaître que même si tu ne comprends pas tout, c'est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Elle est ce qu'elle prétend être. Est-ce que nous, nous sommes ce que nous prétendons être? Des gens qui ont eu de la repentance et que cette repentance-là les a fait faire un volte-face. Nos gens, là-bas, à Ninive, vont dire qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie, des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Et regardez bien, on va regarder une différence dans Actes chapitre 19, et je vous fais une lecture à partir du verset 13. Ça se passe dans le coin d'Éphèse, où Paul s'en va annoncer la parole. Paul va chasser des démons. Paul va faire des miracles que Dieu lui a demandé. Et il y a des gens qui vont réagir, qui vont essayer quelque chose, mais sans repentance. Regardez bien. Actes chapitre 19, verset 13, quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche », c'est plus que deuxième main, là. Ça c'est troisième main, ok? Ils vont dire « Je vous conjure à ce niveau-là par Jésus que Paul prêche », donc pas de connaissance personnelle de Jésus. Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Sceva, Juif, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Mais vous, qui êtes-vous? » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessé. Cela fut si connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient. Et regardez bien là, l'attitude entre les sept fils de Sceva et ceux qui ont vraiment cru. Ceux qui avaient cru, qui avaient exercé les arts magiques, au verset 19, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 150 000 piastres d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Et je vous reviens à la partie B du verset 18. Je voulais la garder à la fin pour cette lecture-là. Ceux qui avaient cru faisaient quoi? Venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Il y avait, et je ne vous dis pas que moi et le pasteur Florent, on va ouvrir des confessionnals ici. Ce n'est pas de ça que je suis en train de parler du tout. Je vous parle de l'attitude. Ces gens-là reconnaissaient leur acte coupable, les confessaient et s'en détournaient. C'est ce qui fait avancer l'œuvre de Christ. Le roi de Ninive, avec ses grands, a eu cette attitude-là de repentance, cette attitude-là qui devrait nous amener un peu plus loin en tant qu'enfant de Dieu, assez loin pour que quelqu'un puisse voir en s'approchant de ton arbre, dire « Hey, c'est un pommier parce que je vois des pommes au loin. » Vous comprenez l'analogie que je veux en faire? Quelquefois, les gens ont besoin de marques, de mettre une plaque, c'est pas mal comme tel de le faire, mettre une plaque avec « Je suis un enfant de Dieu » ou un chandail. Si ton attitude reflète la vie de Christ en toi, tu peux mettre une plaque, là, je ne suis pas en train de dire que tu peux pas mettre une plaque après ta voiture. Ton attitude devrait parler à ton voisinage. Ton attitude devrait parler à tes compagnons de travail. Ton attitude devrait d'étonner avec les gens qui ne connaissent pas le Seigneur ou qui ne sont que religieux comme les sept fils de Sceva. Notre attitude devrait relater. Et c'est pour ça que face à cette décision-là que ces gens-là prennent de repentance, et tout grand réveil commence avec la repentance. Si on regarde les grands réveils passés en France, si on regarde en Grande-Bretagne, dans le Grand Londres et ainsi de suite, en 1800, en 1600 et ainsi de suite, on va voir un trait commun à tous les grands réveils. La repentance. Est-ce que vous voulez un réveil? C'est la repentance. Un réveil dans un homme, un réveil dans une personne, dans une femme, doit être accompagné d'une repentance. Et ces gens-là se sont repentis. Et regardez bien la décision que Dieu prend. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi. C'est le verset qu'on a pris ici, là, que je vous redonne. Quand il dit « Qui sait si Dieu ne reviendra pas au verset 9 et ne se repentira pas? » Eh bien, on en voit la suite ici. La suite ici, verset 10, « Dieu vit qu'ils agissaient ainsi. » Dieu vit qu'ils agissaient selon ce que leur bouche avait prononcé, selon ce que leur roi avait dit, selon la repentance qu'ils disaient avoir. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie, qui faisait le volte-face. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et ne le fit pas. On va appeler ça la chance des Ninivites à ce niveau-là. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, on trouve beaucoup d'endroits où le Seigneur va, et ici c'est un terme bien humain, va se repentir du mal qu'il voulait faire. Je vais vous en donner un peu la teneur suivant ça. Il me reste encore un peu de temps. Mais j'aimerais tout d'abord qu'on regarde dans trois passages, trois prophètes qui vont parler de la compassion de Dieu dans l'Ancien Testament, que le Seigneur prenait soin, que le Seigneur avait miséricorde. Ce n'est pas que le temps de la grâce là, dans ce temps-là. Ésaïe 55, 7. Nous dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Ça nous montre très clairement ici que Dieu, même dans l'Ancien Testament, il voulait que le coupable se repente afin de lui donner la guérison spirituelle, à moins à vouloir le relever. Dans Ézéchiel, chapitre 18, verset 23, « Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt ?» Point d'interrogation, dit le Seigneur l'Éternel. « N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive ?» Qu'il change de conduite et qu'il vive. Et le dernier, dans Joël 2, 13, « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. » Revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Il se repent des maux qu'il envoie. Lorsque le texte dit que Dieu se repent ou qu'il regrette le mal qu'il avait résolu de faire à la ville de Ninive, ça ne veut pas dire que Dieu change d'idée comme un homme, là, parce que Dieu est omniscient. J'en ai parlé, on a discuté là-dessus en fin de semaine, moi et des bien-aimés. L'omniscience de Dieu nous échappe. Et il y a certains traits de la parole qu'on peut mal percevoir parce qu'on saisit mal qui est Dieu. Et le texte ici qui nous dit « Dieu se repentit du mal qu'il voulait leur faire », ça ne veut pas dire que Dieu s'est mis les deux mains dans le verre et a dit « Ah, j'aurais pas dû penser à ça, j'aurais pas dû faire ça ». Si Dieu est omniscient, Il connaissait que le prophète Jonas aurait un résultat dans ça. Il connaissait que les Ninivites referaient un volte-face, reviendraient en arrière et se repentiraient. Et Dieu souvent nous parle au niveau de la nature humaine pour qu'on le comprenne. C'est pour ça que vous trouvez dans la parole de Dieu où on va nous dire dans les évangiles, le royaume de Dieu est semblable à... Ça veut dire que le royaume de Dieu n'est pas une perle. Là. Le royaume de Dieu n'est pas du blé. Le royaume de Dieu n'est pas du levain. Mais il va dire, le royaume de Dieu est semblable à... Le royaume de Dieu est semblable à... Là. C'est pour nous donner à nous, qui sommes de ce côté-ci du ciel, une image, une figure de style de ce qu'est le royaume de Dieu. Et ici, quand Dieu parle, il dit... Ils se repentirent du mal qu'ils avaient désiré leur faire. Ça ne veut pas dire que Dieu a eu une repentance comme toi et moi, on a de la repentance. Sinon, il faudrait que ce soit un pécheur. Et ça n'est pas un. Et le Seigneur qui donne ces phrases-là, il veut communiquer une pensée. Et c'est ce qu'on va regarder dans, un peu dans le dernier qui nous reste du temps qu'on a à notre disposition. Le Seigneur communique à nous pour qu'on comprenne. Si vous prenez, et on ne prendra pas, là, je vais vous le donner rapidement. Deux chroniques, pour ceux qui prennent des notes, deux chroniques, chapitre 16, verset 9, qui nous dit « Les yeux du Seigneur ». Est-ce que vous pensez que le Seigneur a une paire de yeux comme nous, là, et qu'il regarde à un endroit à la fois, là, puis s'il est rendu là, il ne sait plus qu'est-ce qui se passe en arrière de lui, là. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit que les yeux du Seigneur sont sur son peuple. Ésaïe 53:1 nous dit, « Le bras ou la main du Seigneur n'est pas trop courte. » Croyez-vous que Dieu, vraiment, la parole de Dieu nous dit que Dieu, c'est d'abord un esprit, là. D'accord? Pensez-vous que Dieu a vraiment un dos? Quand il dit à Moïse, « Tu vas me voir de dos. » Et on pourra prendre plein d'exemples comme ça pour étayer un peu où, dans Jonas, il va dire Dieu se repentit du mal qu'il voulait leur faire, c'est-à-dire se repent pas de la repentance du péché. Hein. Soyons clairs. Dieu ne dit pas « Ah, ils ont changé d'idée ». Dieu sait. Dieu sait. Et cette omniscience-là nous échappe. Regardez bien, Sophonie. Un prophète mineur, Sophonie, chapitre 2, verset 13, j'irai jusqu'au verset 15. Il étendra sa main sur le septentrion. Il détruira la Syrie. Il fera de Ninive une solitude. Là, je vous amène plus loin dans le temps. Ils se sont repentis. Peut-être que l'autre génération qui a suivi, ou peut-être même quelques années plus tard, ils ont abandonné leur position de repentance. Et regardez bien, je ne veux pas vous faire peur, là. Il détruira la Syrie, il fera de Ninive une solitude, une terre aride comme le désert. Des troupeaux se coucheront au milieu d'elle, des animaux de toute espèce, le pélican et le hérisson habiteront parmi les chapiteaux et ses colonnes. Des cris retentiront aux fenêtres, la dévastation sera sur le seuil, car les lambris de cèdre seront arrachés. Voilà donc cette ville joyeuse qui s'assied avec assurance et qui dit en son cœur, « Moi et rien que moi. » Et quoi? Elle est en ruine, c'est un repère pour toutes les bêtes. Tous ceux qui passeront près d'elle siffleront et agiteront la main. La repentance, bien-aimée, devrait être, et là je ne vous parle pas d'un pitié party, ce n'est pas de ça que je vous parle. La repentance ne devrait pas nous habiter tout simplement lorsqu'on va passer dans les eaux du baptême. La repentance devrait être une attitude qu'on devrait avoir toute notre vie. Et je ne vous parle pas de s'en aller en se frappant la poitrine, c'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est de ma très grande faute. On le sait tous, ça, que c'est de notre faute. On doit juste avoir l'attitude du changement qui est amorcée ou, si vous voulez, qui trouve sa force dans la repentance. Si cette attitude-là nous quitte, qu'on dit « Non, je suis un bon chrétien. Je pense pas que... Non, sais-tu, je pense que je suis un bon gars, dans le fond. » C'est là que peut-être tu peux te mettre à chanter. C'est là, peut-être, que tu peux vaciller. c'est là peut-être que peut être ta chute. Et je vous ne parle pas là ici qu'on s'en aille tous la mine basse là, en se frappant la poitrine. Je vous l'ai dit, c'est pas de ça dont je suis en train de vous parler. Je suis en train de vous parler de la bonne attitude ou du bon fruit qu'est la repentance. Du bon fruit qu'est la repentance qui devrait nous amener à comprendre que le Dieu de miséricorde, que le Dieu de toute grâce, c'est pas une autoroute à quatre voies. On fait pas ce qu'on veut sur le chemin étroit que le Seigneur nous a dit, ou par la porte étroite, puis le chemin qui est pas large. Là. Ça le dit. C'est étroit. C'est pas large. C'est pas spacieux comme chemin. C'est voire peut-être difficile, mais c'est le chemin qui mène à l'éternité. Amen. C'est le chemin qui mène à l'éternité. Dans Sophonie, quand il nous parle de Ninive, il nous dit quoi? Que la ville va être rasée, qu'elle va disparaître dans l'oubli. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit, beaucoup d'archéologues pensaient que c'était une histoire, Jonas, mythique. Mais la morale de l'histoire, c'est qu'ils l'ont trouvée. Vous savez, quand on donne la parole à quelqu'un, quand on annonce le salut, on doit mettre en face de la personne la loi morale de Dieu. Sinon, elle ne sentira pas sa repentance. Et je sais que quelquefois, ça peut troubler des gens, ça peut voir amener que les gens vont moins vous apprécier. Mais sans loi morale, la personne ne sentira pas le poids de son péché. Pour sentir vraiment le poids du péché, il faut que la personne sache, exemple, que voler, c'est mal. Pas juste qu'elle sache là, de façon aléatoire, qu'elle sache que Dieu condamne ça, que ça te coupe l'accès à la grâce de Dieu. On doit dire les choses telles qu'elles sont. La loi, quelquefois, fait mal aux personnes qui l'entendent. Quelquefois, c'est dur de prendre des gens et de dire, écoute, tel que tu vis là, ton chemin est pavé vers l'enfer. Soyons clairs. Soit qu'on a peur de se faire moquer de nous, ou soit qu'on a peur que les gens ne nous aiment pas. Mais soyons clairs, on doit appeler les choses par leur nom et dire aux personnes à quoi ils font face. Cette douleur-là, elle est nécessaire. Dans l'histoire de la grâce, si vous voulez, il y a l'histoire du pécheur qui se repent. Dans l'histoire qu'on trouve de Ninive, de la repentance, il y a des gestes, des contritions, des changements de voix qui se font. Personne ne va aller à la repentance s'il se sent innocent. Donc, n'ayez pas peur, je vous le dis, de dire à la personne, « T'es coupable. » Parce que c'est la réalité. Il faut qu'elle puisse sentir son besoin. Et ce que je vous dis là n'est pas de moi, là. C'est d'un auteur là, que j'apprécie beaucoup, où je prends un peu de ses textes, parce que cet homme-là enrichit ma propre connaissance. Pourquoi il ne serait pas capable d'enrichir la vôtre? Il raconte une histoire d'un roi qui voulait, c'était son anniversaire, il voulait gracier des prisonniers aux galères. Donc, il va à une place où il y a des prisonniers, et il dit, « Toi, pourquoi es-tu ici? » Ah, c'est une terrible erreur judiciaire au Mont-Roi. J'ai absolument rien fait. On m'a jeté ici. Il ne s'est rien passé. Il passe à un autre. Il dit, « Et toi, qu'est-ce que tu as fait? » C'est quelqu'un qui m'a médisé. On m'a condamné sous de faux raisonnements, sous de faux prétextes. Il va à un troisième. Il dit, « Et toi? » Il dit, « Moi, j'ai été condamné justement. » Il dit, « J'ai fait ce dont on m'accuse et j'étais digne d'être envoyé aux galères. » Il dit, « OK, c'est lui que vous allez gracier. » Il dit aux autres, « Je ne voudrais pas qu'il vous corrompe. On va tout laisser les bonnes personnes ensemble puis je vais le sortir de là. » Pour que quelqu'un sorte de sa situation, il faut qu'il reconnaisse qu'il est un pécheur. Pas juste, « Ouais, je suis un pécheur. » Il faut qu'il reconnaisse la gravité. Ésaïe 1,18 nous dit, « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine blanche. Donc, soyons bien avisés. Quand on donne le message de repentance, et là, je parle à des croyants, n'oubliez pas d'y inclure que la personne, elle ne vient pas à Jésus pour faire plaisir à Jésus. Elle vient à Jésus parce que sinon, elle va mourir dans son péché. C'est un ou c'est une pécheur ou pécheresse. C'est la réalité qu'on doit donner. Pourquoi j'insiste là-dessus pour terminer? Parce que dans notre monde, le péché n'existe plus. Et les gens, d'ailleurs, ne sentent plus le poids du péché. Et malheureusement, des chrétiens se comportent comme les gens à l'extérieur parce qu'ils ne sentent pas le poids du péché qu'ils commettent. Et tu arrives à cet arbre-là pour prendre un fruit, il n'y a que des feuilles. D'accord? La parole de Dieu nous enseigne dans le Nouveau Testament qu'on doit porter beaucoup de fruits. Hein, il nous émonde, puis après ça, on porte encore plus de fruits. Bien-aimés, nous devons prendre conscience, réaliser que si Jonas a fait une prédication, je ne veux pas dire qu'on va convertir la ville de Montréal, mais ça pourrait arriver. D'accord? Si Dieu a permis dans ce temps-là, pourquoi qu'il ne veut pas le permettre pour nos familles? Vous savez, l'Évangile a fait sa place dans ma famille. Je viens d'une grande famille. L'Évangile a fait sa place. C'est-à-dire le trois quarts de ma famille immédiate sont sauvés. Et là, maintenant, ça commence à faire des petits chez les neveux, les nièces. C'est ma nièce qui va se faire baptiser dimanche. C'est la fille de ma sœur qui va se faire baptiser dimanche. Quelquefois, le travail est long. Je suis converti depuis au-dessus de 40 ans. Elle arrive là maintenant. J'ai un autre de mes neveux, quand il est venu me voir et qu'il s'est assemblé ici, maintenant il reste dans une ville en périphérie de Montréal, donc il s'assemble là. Et mon neveu, quand il est venu me voir, c'est la curiosité. Parce que les autres parlaient de moi, de mon frère Réal, de Claude, on était les seuls qu'on s'y disait. Ils sont virés un peu sur le top, eux autres. Ils sont plus tout à fait, eux autres. Tu devrais voir André, sa blonde l'a mis dehors. Ça va mal, son affaire. Mon affaire allait très bien, là. Et lui, ça lui a piqué sa curiosité. Il est venu me voir, et cet homme-là a pu être sauvé. Il y a un fruit qui doit accompagner notre repentance. Et les gens doivent entendre la vérité. Qu'ils n'ont pas de fruits dans leur arbre, qui sont destinés à une éternité sans Dieu. Nous devons donner la loi morale pour cela. Donc, on termine ici. On va prendre à notre prochaine intervention un peu la suite de cela et on va regarder la réaction de Jonas. Je sais que vous et moi, on n'aurait jamais cette réaction-là. On est trois fois saints, mais Jonas l'a eu. On va se lever. Et on va tout simplement incliner la tête et prier. Seigneur, nous voici arrivés à la fin de cette assemblée où j'ai pris un deuxième, voire même un troisième temps pour parler de la repentance en m'appuyant sur les textes de Jonas. Mais moi, Seigneur, je ne peux donner de conviction à personne. Tu dis que c'est ton esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Donc, Seigneur, dans nos familles, voir pour nous-mêmes et dans nos familles, donne-nous des cœurs repentants. Donne-nous de pouvoir porter un fruit abondant afin que là même où on nous calomnie, comme dit ta parole, qu'ils puissent remarquer nos bonnes œuvres ou nos œuvres de foi au Dieu qui fait suite à la repentance. Seigneur, je te remets ton peuple tout simplement entre tes mains qui va rentrer à la maison. Donne-leur une saine réflexion et une sainte réflexion, Seigneur. Et au besoin, qu'on puisse se reprendre, ô Dieu, et mettre de l'ordre dans nos vies, Seigneur, afin qu'on puisse être ce fruit dont le monde a besoin, avec lequel le monde puisse se nourrir et arriver à la repentance, avoir des forces pour la repentance. Je livre ton peuple entre tes mains, garde-les, protège-les, Seigneur, retour à la maison et donne-nous, Seigneur, d'avoir des cœurs humbles et doux, Seigneur, pour que cette repentance-là puisse nous habiter dans toutes les sphères de notre vie. Non pas une repentance tout simplement de regret, mais comme tu dis dans ta parole, une repentance dont on ne se repent jamais, ô Dieu. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment.